on peut distinguer cinq temps arbitrairement, enfin, on peut s'amuser à voir ça comme ça. On peut dire il y a cinq temps dans l'éducation populaire. L'éducation populaire, d'abord, ça ne s'appelle pas l'éducation populaire. C'est la dimension culturelle du mouvement ouvrier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens sont arrachés de leur campagne, sont mis dans des fabriques, des usines, et ces gens-là ne sont plus rien. Du jour au lendemain, ils sont attachés à une machine et ils vont se poser pendant un siècle. Tout le 19e siècle, ils vont se poser des questions de nature culturelle, c'est-à-dire qui on est, comment on peut s'organiser, est-ce qu'on met nos enfants à l'école de la bourgeoisie, par exemple, l'école de Jules Ferry, le mouvement ouvrier refuse de mettre ses gosses à l'école de la bourgeoisie, puisque c'est pas les mêmes valeurs, enfin tu vois, et se pose des tas de questions, et donc on pourrait dire que le premier temps de l'éducation populaire, c'est la dimension culturelle du mouvement social. Du mouvement ouvrier, mais culturel, pas au sens théâtre, musique, danse. Hein. La dimension de signification de qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans cette industrialisation qui vient de débarquer avec eux. Ça va monter jusqu'au début jusqu'à fin du 19e siècle où ça va, dans un deuxième temps, devenir un truc qui s'appelle l'éducation populaire, si tu veux, avec une branche spécialisée du mouvement ouvrier, et à l'intérieur du mouvement ouvrier, des gens qui disent « je fais de l'éducation populaire, je suis éducateur populaire ». Ça coïncide avec la naissance du syndicalisme, avec la naissance des mutuelles, avec la naissance des bourses du travail, c'est-à-dire où le mouvement commence vraiment à s'organiser, et s'organisant, il va y avoir des gens qui vont faire que ça, c'est-à-dire qu'ils vont, au lieu d'être à l'usine, ils vont être à la bourse du travail comme éducateurs, tu vois, ils vont faire des cours d'économie pour Fernand Pelloutier, pour enseigner à l'ouvrier la science de son malheur, enfin tu vois, je veux dire, l'éducation populaire va devenir non plus une dimension, mais une branche spécialisée du mouvement social, du mouvement ouvrier. Ça va monter, ça va se structurer jusqu'à la guerre. 36, on va voir arriver tout un tas d'associations d'éducation populaire qui vont faire de l'aviation populaire, de la radio populaire, du cinéma populaire. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que ça va. Ils vont se doter de moyens. Il y a la loi 1901 qui est arrivée entre temps, donc les associations déboulent. Et puis les premiers congés payés, les loisirs. Donc on a tout un tas de loisirs politiques, en fait. Il ne s'agit pas de faire du yoga, il s'agit de. Des loisirs ouvriers, des trucs. Donc ça va monter. Et puis là-dessus, la guerre arrive. Et on peut dire que le troisième temps de l'éducation populaire, c'est celui que je raconte sur scène, c'est le temps de son institutionnalisation dans l'appareil d'État. C'est-à-dire que l'appareil d'État décide, cette fois-ci, de créer une direction de l'éducation populaire. Ça va donner lieu à des diplômes, à des subventions, enfin ça va donner lieu à un ministère de la jeunesse et des sports, avec une direction de l'éducation populaire, enfin bref, etc. Il va se pervertir dans l'animation socioculturelle. C'est-à-dire que à partir des années du 4e et du 5e plan d'équipement, on va donner à ces gens. On va construire des équipements qu'on va appeler des maisons de jeunes, des MJC, des trucs comme ça. Et dans les années 50, une MJC, c'est une salle municipale avec des livres et de la discussion. C'est-à-dire, en gros, il s'agit de se réunir pour discuter. Et on parle de la guerre d'Algérie, on fait de la politique, en fait. Mais on n'a pas de lieu pour ça. Enfin, on investit des endroits. Enfin, bref, c'est hyper vivant, c'est hyper politique. À partir du moment où le phénomène des banlieues commence à arriver avec ce qu'on appelle les blousons noirs, avec les immigrés qu'on fait venir massivement, qu'on va chercher en Algérie, au Maroc, etc., et puis qu'on leur construit des grands ensembles, etc., ça commence à craindre. Et on va construire des équipements socio-éducatifs pour calmer un peu tout ça, si tu veux. Et on va confier ces équipements à des gens qui sont des fédérations d'éducation populaire. Typiquement, la fédération des MJC, je connais bien, va se retrouver en quelques années avec des milliers d'équipements à gérer. Puisqu'en 1964, il se crée par semaine 3 MJC en France. Quand je dis secret, c'est un bâtiment avec une salle, avec, enfin, tu vois, ça correspond à une transformation mondiale au niveau des États-Unis, avec l'abandon de. Alors après, ça c'est de la politique macroéconomique, si tu veux, mais en gros, c'est l'abandon des politiques keynésiennes après-guerre, et c'est Nixon, c'est Reagan, Thatcher, c'est-à-dire c'est on C'est un moment de redéploiement du capitalisme qui sort, enfin qui décide de sortir du compromis qu'ils avaient mis en place après la guerre, qui était un compromis, ce qu'on appelle keynésien, c'est-à-dire où on va développer des très gros services publics. En France, enfin, je ne sais pas si vous imaginez ce que représente le régime général de sécurité sociale, mais on est sur un système effectivement communiste au sens intéressant du terme. C'est-à-dire qu'on a des... On nationalise EDF, on nationalise les autoroutes, enfin tout est nationalisé, enfin je veux dire, et on a un énorme service public, et ça marche, je veux dire, c'est un truc génial, et les années 80, enfin Nixon, Reagan, etc., sont les années qui vont casser ce truc-là, les Américains se retirent du jeu, et donc à ce moment-là, le capitalisme connaît une période de redécollement via la financiarisation, etc., et les socialistes en France sont les gens qui accompagnent ce mouvement. C'est pas eux qui... Quand Laurent Fabius décide de faire rentrer les fonds de pension américains, dont personne ne veut nulle part, parce que c'est une merde, les faire rentrer massivement en France, je veux dire, tu vois, ils rentrent dans un mouvement. Alors, c'est la seule chose que tu peux pas prévoir. C'est-à-dire que ce que tu sais, c'est qu'elle aura lieu. Pour une raison assez simple, c'est que l'histoire s'arrête jamais. Et que c'est absolument impossible qu'il n'y ait pas de nouveau ce qu'on appelle une révolution, hein, qui est un changement assez radical de mode de production et de rapports sociaux liés au mode de production, enfin bref, du marxisme de base. En revanche, le fait de la prévoir, ça c'est ultra rigolo, c'est le seul truc que tu ne peux pas faire. C'est-à-dire que le 13 juillet 1789, personne ne pouvait imaginer que dans un régime beaucoup plus absolutiste que celui de François Hollande, que c'est celui de Louis XVI, une manif bidon contre une prison vide allait donner le plus grand changement politique du millénaire. Mai 68, ils n'ont pas vu venir. Hein. La France s'ennuie. 95, ils n'ont pas vu venir. 9 millions de personnes dans les rues, quand même. 9 millions de grévistes en 95. Une quasi-grève générale. Parce qu'ils touchent à la retraite des cheminots. Donc tu ne peux absolument pas... Absolument, tu sais pas. Demain, y a un flic qui tire sur un mec de trop dans une banlieue. 2005, couvre-feu 2005. 32 agences bancaires parties en fumée. Ça, c'est les chiffres de renseignements généraux que j'ai eus parce que je bossais à Sevran avec le secrétaire général de mairie. Ça, c'est à la télé, ils n'ont parlé que d'incendies d'écoles, de théâtres et de centres culturels. 32 agences bancaires ont cramé. Donc, si tu veux, on était dans une situation pré-insurrectionnelle, clairement. Là, ils ont des kalachnikovs, les mecs, hein, maintenant. Donc, tu sais pas comment ça va partir. Mais ça va partir. Donc, la question, c'est pour ça que moi, quand on me dit « Mais c'est quoi votre boulot ?», je réponds en blaguant, c'est de fabriquer du temps de cerveau humain disponible pour la Révolution. C'est-à-dire, on peut rien faire d'autre que de participer à notre façon, là où on est, là où on estime que ça judicieux et juste, de participer de l'élaboration d'un rapport de force. C'est tout. Enfin, je veux dire, si tu veux, là... La bourgeoisie a mis 5 siècles à piquer le pouvoir à l'aristocratie. On peut considérer, c'est ce que dit Friot. Friot dit que ça nous prendra probablement 5 siècles pour faire ce que tu penses là, c'est-à-dire pour supprimer cette forme de hiérarchie par la propriété. En fait, les méthodes, enfin la clé, on la connaît depuis Marx. Enfin, je veux dire, même depuis Babeuf d'ailleurs, Robespierre, c'est d'en finir avec la propriété privée. Mais la question de comment finir avec la propriété privée sans créer une société qui donne du goulag, c'est cette tension-là qu'il faut résoudre. Tout le problème est de limiter la propriété, d'arriver à se mettre d'accord sur un niveau de propriété au-delà duquel tu peux pas aller plus loin. Friot propose pas, par exemple, de supprimer la propriété, il propose de la généraliser. Il dit on donne à la naissance à chaque Français, on lui donne 2 hectares de France. Il n'y a plus que des propriétaires. Mais sauf qu'il n'y a pas de gros propriétaires. Si tu arrives à toucher à ce... Actuellement, la propriété, c'est une croyance. Ça, c'est très important. C'est encore du Friot, j'y peux rien. Moi, en ce moment, c'est lui... C'est avec lui que je bosse. Quand il se moque des athées en disant « Ne croyez pas que le fait d'être athée vous exonère des croyances », Il dit, qu'est-ce que vous faites des croyances capitalistes? Qu'est-ce que vous faites de la croyance dans le crédit? Qu'est-ce que vous faites de la croyance dans la propriété? La propriété est absolument une convention, c'est une croyance. Enfin, tu décides que tu as le droit de posséder ça ou ça ou ça. C'est, je veux dire, il n'y a rien. Enfin, tu vois, il suffit qu'on décide que c'est plus possible. Enfin bref, ça c'est tout l'enjeu du socialisme, c'est-à-dire du communisme. Et donc, on va vers ça, enfin nécessairement, sauf si on crève tous avant pour cause d'épuisement des ressources et de désordre climatique et d'extinction de l'humanité. Mais on va fatalement dans la marge de l'humanité vers le fait d'en finir avec la propriété individuelle et le fait de collectiviser les besoins, les ressources. Enfin bref, ce qui serait le socialisme idéalement. Enfin, c'est pour ça que j'aime bien Badiou quand il dit on n'a pas d'autre choix que de réussir l'hypothèse communiste, que de la recommencer encore et de la réussir. Enfin, mais tout ce qu'on essayait de faire, c'était simplement de libérer le truc, c'est-à-dire d'enrayer les logiques de financement par projet, par exemple. Mais rien que ça, rien que si on avait réussi ça, de convaincre le ministère de la Jeunesse et des Sports de revenir à ce qu'il faisait avant, à la subvention de fonctionnement, rien que ça, ça réouvrait de l'espace politique. Je veux dire, quand je travaillais à la Fédération des MJC, quand j'arrive, on touche 14 millions de francs de l'État pour 1700 MJC en France, tu vois. La droite arrive, on passe à 7 millions, bon, ok, c'est la droite, elle sabre les budgets, mais la gauche revient, elle rétablit pas, elle continue à diminuer, puis surtout, elle nous demande de justifier cet argent en projet du jour au lendemain. Dès la rentrée de 1987, je crois, si tu veux ce pognon, il faut justifier des projets. Donc tu dis, mais attendez, il faut bien des gens pour faire les projets. Ah non, non, on veut des projets. Démerdez-vous, enfin tu vois. Ce risque est permanent, regarde les profs. Ils ont une liberté pédagogique, ils ne craignent rien. L'inspecteur ne peut rien contre eux. Rien. L'inspecteur peut juste les freiner dans leur carrière, donc ils peuvent gagner moins d'argent en fin de vie. C'est tout. Et ils n'en font rien de cette liberté, absolument rien. Ils ne prennent aucun risque. Pourtant, ils sont protégés. Donc, si tu veux, la question de la prise de risque, elle est, je sais pas comment dire. Le risque institutionnel, il est effectivement permanent. Dès que c'est institué, c'est pour ça que je trouve ça pas mal actuellement que ça reste un peu en dehors des circuits et que ça soit une espèce de mouvement en train de faire de l'effervescence, de partir un peu dans tous les sens, nuit debout, machin, les trucs. Enfin, il y a des gens qui disent ouais, c'est pas cadré. M'en fous, enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui est en train de monter et à un moment ça va coaliser forcément. Enfin, j'ai pas de doute là-dessus. Sous quelle forme, personne ne peut le dire. On verra. Toutes les révolutions sont récupérées, après il faut recommencer. Hein. Genre le communisme, il faut recommencer. Qu'est-ce que je te dis? C'est ce que dit Badiou. Badiou dit on parle de l'échec du communisme, et ça veut dire quoi? Est-ce qu'un échec est définitif? Il n'y en a pas d'autre choix que de recommencer et de réussir l'hypothèse, ce qu'il appelle l'hypothèse communiste, c'est-à-dire le commun et le fait qu'on arrête le capitalisme et qu'on sorte du marché. Ça fait depuis Robespierre qu'on essaye. Hein. Il faut recommencer, c'est tout. Alors après, le mot communisme étant un petit peu... c'est moins communicant en ce moment, si tu veux. Mais quel que soit le nom qu'on donne à ça. Enfin. Et donc, ils vont se retrouver du jour au lendemain, enfin quelques années, avec des... dans des murs, avec des salles de spectacle. Et le problème, c'est que quand tu enfermes l'éducation populaire dans un équipement, bah, il faut faire vivre l'équipement. Donc, bah, pour faire vivre l'équipement, tu vas proposer des activités pour que les gens viennent. Et tu vas de moins en moins faire de l'agitation politique. Et de plus en plus, tu vas offrir des cours de yoga, de musique, de théâtre. Bon, c'est des activités d'épanouissement personnel qui sont très utiles. Mais le projet de départ de l'éducation populaire, qui est de se fabriquer une culture politique ensemble, il va commencer tout doucement à s'effriter. Et ça va aller jusqu'à l'arrivée du Parti Socialiste. Mitterrand a dit que c'était les MJC qui lui avaient fait gagner les élections. C'est-à-dire que ça veut dire que dans les années 70, ces lieux sont des lieux quand même de contre-pouvoir. C'est des lieux qui se battent contre la politique municipale, c'est des lieux qui font des associations de locataires, enfin tu vois, mais c'est les années très politiques, hein, les années 70. Et puis la gauche arrive, plaf, décentralisation, on change les systèmes de financement, le financement par projet arrive. C'est-à-dire, si tu veux des sous, il faut que tu nous déposes un projet puis qu'il nous plaise. Et l'éducation populaire, en tant que mouvement politique, si tu veux, de structuration de la résistance, meurt. Et on peut dire qu'à la fin des années 80, l'éducation populaire est quasiment morte. Elle est devenue de l'animation socioculturelle, c'est-à-dire c'est plus des sujets qui se rencontrent et pour parler ensemble du monde, c'est des professionnels qui animent des objets sociaux, c'est-à-dire avec des dispositifs qui arrivent, tu vois, pour calmer le jeu dans les quartiers, pour faire des trucs aux gosses, pour enfin, etc. Et l'hypothèse, si tu veux, intéressante, c'est de se dire, avec l'arrivée des premières émeutes urbaines, avec Vaux-en-Velin, avec etc., ça c'est les années 90, on a un phénomène en France qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais eu, qui était réservé aux États-Unis, où on a des jeunes qui balancent des frigos sur les camions de pompiers du haut d'une tour, on a des bagnoles qui se mettent à cramer, enfin je veux dire, et le pouvoir est complètement dépassé, parce que c'est de la lutte des classes, point barre. Et que donc il va réagir en mettant en place un truc absolument atroce qui s'appelle la politique de la ville, qui est une façon de calmer le jeu et de transférer la lutte des classes sur des problèmes culturels et sur la lutte des races, en fait, hein, de dire le problème c'est les Arabes, le problème c'est l'urbanisme, mon cul, le problème c'est les inégalités, c'est les riches et les pauvres. La politique de la ville, hein, ça consiste à te refaire les immeubles, à repeindre les cages d'escalier, et puis à raser les bars, et puis à faire des grands espaces à la con. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est complètement de calmer en fait la lutte des classes, calmer la conflictualité. Et donc l'éducation populaire renaît d'abord parce que on est un certain nombre, et j'en fais partie, à ne pas lâcher le concept. Curieusement, on assiste à un redémarrage d'une éducation populaire politique, mais pas là où on l'attendait. C'est-à-dire que si je simplifie beaucoup, si je caricature beaucoup, je dirais qu'elle est morte dans les associations qui se revendiquaient de l'éducation populaire, les grands mouvements, les MJC, la Ligue de l'enseignement, qui sont devenus des lieux totalement dépolitisés, les Hauts-Lagrange. Les Hauts-Lagrange, c'était socialiste au départ. Enfin, c'est socialiste, enfin, normalement, tu vois. Il reste quelques fédérations d'éducation populaire qui font un travail très chouette, comme les MRJC, le mouvement des jeunesses rurales chrétiennes, très curieusement, qui restent quand même, qui font du travail critique, du travail, etc. Mais tous les autres sont dans l'application des dispositifs d'État, c'est-à-dire des dispositifs de pacification. Et donc, l'éducation populaire est morte dans les fédérations d'éducation populaire. Ils ne font plus de l'éducation populaire. Alors, eux, ils disent qu'ils en font, bien sûr. Mais parce qu'on n'est plus d'accord sur la définition. Si eux considèrent que le soutien scolaire, c'est de l'éducation populaire, moi, je considère que l'éducation populaire, c'est faire ce qu'on fait là, c'est de critiquer l'école et d'essayer de la faire bouger. C'est pas d'aider les gosses à subir encore plus de matraquage. Et donc, l'éducation populaire renaît. D'abord parce qu'on est un certain nombre, et j'en fais partie, à ne pas lâcher le concept et à se battre dans les années 90 pour ce mot. Et on est traité de ringard, mais comme c'est pas possible. Enfin, je veux dire, moi, les gens me disent, mais arrête, l'éducation populaire, mais qu'est-ce que tu racontes maintenant? C'est le développement local, il faut parler de développement culturel. Et on est quelques ringards à tenir bon, à dire non, non, nous, on aime, nous, ce terme, on pense qu'il faut pas le lâcher. Enfin, tu vois. Puis on va créer le pavé, on va créer deux, trois trucs. Il y a YouTube qui arrive là-dessus, qui va faire diffuser ce qu'on fait. Et on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de jeunes qui sont en recherche d'espace politique et qui ne le trouvent pas. Ils vont pas au PC, ils vont pas à la CGT, ils vont pas au Parti Socialiste, tu vois. Et ils vont sur YouTube. Et là, ils découvrent Frio, ils découvrent leur nom, et ils se disent, mais en fait, la notion d'éducation populaire, c'est pas mal. Enfin, c'est un truc qu'on peut habiter pour agir. Enfin, tu vois. Et donc, ils sont en train, vous êtes en train de ressusciter le concept d'éducation populaire de nouveau comme un truc de résistance politique, si tu veux. Ce qui énerve profondément les fédérations d'éducation populaire officielles. Qui disent, mais tu vois, je veux dire, la Ligue de l'enseignement, ils me détestent, une catastrophe. Tu vois, mais en même temps, quand Attaque, en 98, se déclare association d'éducation populaire tournée vers l'action, il se passe quelque chose, si tu veux, parce que Attac, d'un seul coup, se remet à expliquer ce que c'est que l'OMC, ce que c'est que la Banque mondiale, comment marche l'économie, ce que ne faisaient plus les MJC, la Ligue de l'enseignement, Léo Lagrange, enfin, tu vois, ils expliquaient plus les inégalités. Mais si tu expliques plus les inégalités dans les quartiers, comme le faisait le Parti communiste quand il existait encore, comme le faisaient les grands mouvements cathos, chrétiens, la JOC, la GEC, la JAC, je veux dire, s'il n'y a plus personne qui explique les inégalités, les mômes dans les quartiers, ils n'ont plus d'analyse politique sur leur situation. Donc ça génère une violence qui, pour le coup, est une violence qui n'est plus politique. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de refabriquer de l'analyse politique et de l'explication des inégalités. Et le problème, c'est que le système tient tant qu'il tient. Mais quand il pète, tu vas voir tout le monde se barrer en courant dans tous les sens. Et il va péter dans pas longtemps. Après, le capitalisme, pour l'instant, a toujours régulé à coup de guerre. Hein. Ça, c'est clair. Ils détruisent tout l'appareil. Ça, c'est Marx aussi qui l'a montré. Hein. C'est très, très simple. Hein. Quand on arrive en période de surproduction, c'est le cas actuellement. On ne sait plus écouler les marchandises. Donc, on sait plus. Le capital ne sait plus faire de la plus-value. Il arrive à en faire en rognant sur les salaires, etc. etc. Mais il y a un moment, il arrive au bout. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il rase et il recommence. Ça s'appelle une guerre mondiale. Les jeunes d'aujourd'hui, donc je ne me mets pas dedans, les plus jeunes vont devoir gérer à plus ou moins brève échéance la sortie du capitalisme. La question, c'est que cette sortie, soit elle se passera bien, soit elle se passera mal. A priori, elle se passera mal. Elle se passera mal parce qu'ils ne vont pas se laisser faire. Et parce qu'on va mettre tous les peuples en concurrence les uns contre les autres. Mais elle pourrait se passer bien, d'une certaine façon, si on était plus nombreux à être intelligents sur la question. Mais la sortie du capitalisme, elle est inéluctable. Le capitalisme est une forme ridiculement courte dans notre histoire. Il arrive au bout, c'est un système qui tient, qui n'est pas viable. Donc il arrive au bout, mais simplement, c'est d'ailleurs pour ça qu'il se gave. Hein. Il se gave. Et donc les jeunes d'aujourd'hui vont devoir gérer ça. Donc ça va péter, ça va être, je veux dire, ils n'arrêtent pas d'annoncer l'effondrement des banques et du système financier. Tous les bouquins que je lis des gens extrêmement sérieux te disent « je vois pas comment éviter ça ». Donc on le recule, on le retarde. On a complètement perdu la maîtrise de la monnaie. On ne sait plus combien il y a de monnaie en circulation, en nombre de milliers de milliards. C'est n'importe quoi. Enfin, donc le système va s'effondrer. Et qui fera les frais de ça? La question que je trouve intéressante, c'est on est en train de pouvoir se passer de l'humain en termes de production. Mais donc qu'est-ce qui devient? Et ça, c'est une question que posait Viviane Forrester quand elle écrit l'horreur économique en 85, je crois. Elle dit, on est en train de n'avoir plus besoin de plus en plus de monde. Hein, on en est à 25% de la population qu'on n'a pas besoin. Tant qu'on est dans une démocratie, file des RSA, se démerde, mais un régime politique bascule très très vite. Elle dit, si on n'est plus en démocratie, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Mais pour ça, il faut sortir du système de démocratie représentative, déjà. C'est Étienne Chouard, le malheureux. Néo-nazi hitlérien, si on en suit les antifas. Mais effectivement, c'est déjà de rendre impossible la création d'une oligarchie politique et d'une classe politique, si tu veux. Et c'est de mettre en place le tirage au sort. L'élection n'est pas démocratique. Elle est oligarchique, nécessairement, par essence. Coluche disait, si le vote pouvait changer les choses, il aurait été interdit depuis longtemps. Enfin. Mais il faut écouter Henri Guillemin. Vous allez sur Internet, vous tapez Henri Guillemin, vous faites toutes les confs, vous commencez par Robespierre, vous continuez sur la Commune, vous enchaînez sur l'entre-deux-guerres, et là, vous comprenez ce que c'est que la fausse gauche. C'est-à-dire ces gens qui s'appellent républicains, radicaux, socialistes, enfin qui changent de nom tous les 30 ans, et qui sont au service des intérêts de la classe dominante en se présentant de gauche. Et là, tu te dis, non, mais... Et la seule qui propose de sortir de l'euro, ah bah c'est con, dis donc, c'est Marine Le Pen. Ah merde. Oui, sauf que Friot, Yanis Varoufakis, tous ces gens-là te disent, soit on sort de l'euro, soit on va vers la guerre en Europe, la guerre civile, hein, la vraie de vraie. Donc, on fait quoi? Et là, tu vois bien que c'est... Enfin, il faut faire de l'éducation populaire à fond, quoi. C'est pour ça que quand je dis aux gens, mais putain, faites des conférences gesticulées, je suis sérieux. C'est-à-dire, allez-y, quoi. Sortez votre savoir, mettez-le sur la place publique. Et donc, le cinquième temps de l'éducation populaire serait celui de sa renaissance. Mais de sa renaissance hors des circuits qui s'appellent l'éducation populaire. Si tu as une analyse matérialiste, c'est-à-dire tu analyses effectivement la façon dont l'appareil de production se financiarise, dont on délocalise, enfin je veux dire, et donc ce que ça produit au niveau du mouvement social, destruction des syndicats, destruction, etc. Mais tu as aussi une approche plus culturelle où tu t'aperçois que tu as trois facteurs qui concourent à dépolitiser la société. C'est une offensive intellectuelle très importante de relecture de la Révolution française, qui sort d'une analyse marxiste de la Révolution. Et ça, c'est un point très très important en France de dépolitisation, parce que derrière, il y a l'idée qui arrive très vite que toute révolution conduit au goulag, et que dès qu'on veut changer le monde, on fait des catastrophes, et qu'il faut laisser le truc s'organiser, la main invisible, le marché, etc., etc. Donc ça, c'est une grosse, grosse, grosse offensive intellectuelle dans le champ des universitaires français. Foucault, c'est quelqu'un qui amène l'idée que le pouvoir est partout. Mais le problème, c'est que si le pouvoir est partout, c'est qu'il est nulle part. C'est-à-dire tu peux plus l'identifier, tu peux plus le combattre. Et c'est la réhabilitation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'un des trucs que va amener la gauche au pouvoir en 81... c'est elle tourne le dos à ce qu'elle est supposée dire. C'est-à-dire que la réhabilitation de l'entreprise, c'est le discours de la gestion qui va se mettre à envahir toute la sphère, y compris la sphère privée. Enfin, il faut gérer sa vie, il faut gérer son couple, il faut tout gérer. Enfin, tu vois. Et ça, c'est ce que vont faire notamment les socialistes en France. Ils vont avec un discours qui est « il faut arrêter de critiquer l'entreprise, la croissance c'est vachement bien, qu'est-ce que tu racontes ? T'es du côté du patron, t'es du côté de... tu vois ?» L'école de Jules Ferry, c'est une saloperie, je veux dire. L'école de Condorcet, c'est une école basée sur un principe de méritocratie qui fabrique une élite. Donc on est sur un système de sélection et qui vise pas du tout à démocratiser du savoir, qui vise à démocratiser du recrutement de l'élite. C'est-à-dire tu ouvres le système, mais en haut, le but de l'école, c'est de fabriquer une élite dirigeante. Donc c'est un système de sélection. Jules Ferry est une ordure, à tout point de vue. Donc, je suis pas du tout, je suis pas tendre avec l'école, sauf que y a des mouvements pédagogiques dès le début qui vont contester ça. Et ces mouvements pédagogiques vont connaître une période un peu miraculeuse dans les années 70, où il va y avoir une remise en cause de cette école sélective, etc. Et tout ça se referme dès les années 80. Avec les socialistes et avec l'arrivée du fameux le chômage. Donc il n'est plus question de faire de la pédagogie, hein. Maintenant il faut avoir du boulot, etc., etc. Et toutes les avancées pédagogiques des années 70, de remise en question de cette école, s'effondrent. Et on se retrouve avec une école dont le but est systématiquement plus de sélection, plus de compétition pour avoir une place dans la société. Donc c'est juste un cauchemar. Ce qui est ambivalent, c'est que l'école t'amenant quand même du savoir et la possibilité de réfléchir, elle est aussi un lieu d'émancipation. Je veux dire, moi, c'est à l'école qu'en lisant Nietzsche, j'ai arrêté de croire en Dieu. Donc l'école, elle c'est très compliqué. À la fois, elle te donne les moyens d'avoir un regard critique. Enfin, elle te donne, oui. Enfin, déjà parce qu'elle t'apprend à lire, etc., etc. Et en même temps, elle te met dans un système où elle détermine ta place. C'est ce qui était intéressant dans les années 70, c'était qu'on avait envoyé le balancier du côté de l'émancipation plutôt, en disant on arrête les notes, on supprime le bac. La grande revendication de 68, c'est suppression du bac, suppression des grandes écoles, suppression des notes. Tout le monde a le droit d'aller à la fac, enfin, tu vois. Donc on avait le mouvement étudiant avec complètement conscience du problème. Et tout ça, se referme. Et là, aujourd'hui, demain, c'est l'école Vivendi, quoi. Tu vois, c'est... La proposition de revenus de base, évidemment, que le MEDEF est pour, Fillon ouais. Est pour, tout le monde est pour. Mais il n'y a pas que. C'était tous les gens que je connais vaguement de gauche, ils sont pour. Et moi, donc, tu leur dis, mais arrêtez, enfin... Sur Facebook, j'avais eu le malheur de marquer un truc sur cette saleté de revenus de base. Donc il y avait l'association française pour revenus de base qui m'avait allumé. Donc bon, je m'étais un peu excusé. Et il y avait une nana qui m'avait dit « Mais moi, 800 euros par mois, ça me suffit, je prends. » Et je lui avais répondu « Mais si ça te suffit, le patronat a gagné. » Je veux dire, dis-le encore plus fort. Je veux dire, va dire au MEDEF « 800, ça me suffit. » Pourquoi ils vont te filer 1500 ou 3000 alors, enfin, je veux dire, tu vois, qu'est-ce que tu racontes? C'est terrifiant, enfin, je veux dire, terrifiant à quel point on a abandonné nos exigences par rapport à la classe possédante. Alors bon, en même temps, il y avait la CGT a 5 millions d'adhérents quand il crée le régime général de sécurité sociale. La CGT aujourd'hui, c'est 3 Pékin et 2 Pélo, parce qu'ils ont réussi à casser le syndicalisme. Enfin, il y a eu une offensive, ils ont pété les partis politiques, ils ont pété la gauche, ils ont pété le syndicalisme. Et donc voilà, donc on est dans cette situation où les structures politiques sont plus là et où, paradoxalement, à cause d'Internet, des tas de gens comme toi, s'instruisent du capitalisme. C'est très bizarre comme situation. C'est comme s'il y avait plein de carburant qui s'amassait. Faudrait pas qu'il y ait une étincelle, quoi. Faudrait pas qu'il y ait une allumette qui traîne.